Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
À Ottawa, présentement, il n'y a pas d'intervention, mais c'est assez clair que la police là-bas, qui est en grand nombre, hein, on a fait appel en plus de la police d'Ottawa à la police de l'Ontario, à la gendarmerie royale du Canada. Il y a même la Sûreté du Québec qui va être là en renfort. Et c'est assez clair que là, on prépare l'intervention. Imaginez un grand rectangle dont un des grands côtés serait la rue Wellington, là où il y a les édifices parlementaires. Ben, il y a désormais 100 checkpoints, des points de contrôle qui permettent aux résidents ou aux gens qui travaillent dans le périmètre d'entrer et de sortir. Si vous n'avez pas d'affaires là, vous pouvez sortir, vous ne rentrerez pas. Je pense qu'on est en train de préparer la fin de semaine. On sait que la fin de semaine, c'est un peu le Woodstock là-bas. Là. Il y a des gens qui vont faire la fête en appui au noyau dur. Ben, je pense pas que ces gens-là vont pouvoir entrer dans le périmètre, dans ce rectangle-là, en fin de semaine. OK. Il y avait aussi une conférence de presse du chef de police d'Ottawa, Steve Bell. On va aller décortiquer tout ça avec Marc Parent, l'ancien directeur de la police de Montréal. Salut, Marc!
Oui, bonjour, Patrick.
Qu'est-ce qui t'a frappé dans ce point de presse de Steve Bell?
Bien, on voit une progression, en tout cas, définitivement, là, on va dire, d'assurance et du fait que le fait qu'ils disent que le prochain week-end, on n'aura pas le même décor, alors je sens beaucoup plus en confiance et possiblement soutenu hein, par l'ensemble des troupes, des différentes organisations policières là, qui vont le soutenir en nombre. Donc, définitivement, ça va permettre de pouvoir mettre en place un meilleur contrôle, comme il disait, des points d'accès. Donc, de limiter, si on veut, une augmentation du nombre de participants ce week-end pour leur permettre de mettre fin, si on veut, à ce siège-là. Donc, beaucoup plus d'assurance dans les prochaines étapes à venir là, pour l'opération qui va se mettre, selon moi, en activité là, dans les prochaines heures et jours.
Marc, t'as été, quand tu étais à la tête du SPVM, quand il y avait les manifs du printemps étudiant en 2012, ça a été... Qu'importe ce qu'on pense de la légitimité des étudiants à l'époque, là, au point de vue logistique, tactique, ça a été extrêmement exigeant pour la police de Montréal d'encadrer ces manifs-là. Si tu étais là-bas, là, dans le poste de commandement à Ottawa, qu'est-ce que tu identifierais comme étant la plus grande difficulté d'intervention pour la police?
Vous en avez parlé déjà énormément. C'est possiblement la présence des enfants qui est quand même importante. Personne ne va avoir sur la conscience des blessures là, dans une intervention là, auprès des enfants, puis évidemment auprès de n'importe quel manifestant, mais je pense que la présence des enfants amène vraiment là, un niveau de complexité énorme. Toutefois, je dirais que dans les différentes stratégies qui seront utilisées, définitivement qu'on peut quand même procéder là, par étape à pouvoir commencer à faire bouger, si on veut, là, les différents convois qui sont stationnés là. Mais ça va être la priorité numéro un, définitivement, là, de trouver une façon de pouvoir graduellement gagner du terrain, mais sans mettre en danger la sécurité des enfants.
Écoute, tu as une grande expérience dans la police. Comment je te dirais ça? C'est sûr que parmi les manifestants dans le noyau dur, il y a des policiers infiltrés présentement.
Oui, on s'entend qu'on a de l'information et du renseignement à différents endroits et de différentes façons, ça c'est clair.
OK, donc on peut penser que les camions, là, les grosses cabines où il y a des enfants, c'est déjà identifié?
Un certain nombre d'entre eux, oui. Okay. Puis, si ce n'est que même par les policiers en uniforme hein, qui patrouillent les rues depuis plusieurs jours, ils ont déjà une excellente idée où se trouvent les enfants.
OK. Donc, au niveau tactique, est-ce qu'on commence par les cabines où il y a des enfants ou on attend à la fin?
C'est une excellente question. C'est une excellente question parce que je pense que la première étape a été déjà là, franchie, c'est-à-dire de communiquer clairement nos intentions, de donner la chance à tous ceux qui veulent quitter, de quitter. Et ça, pour moi, je trouvais que ça tardait et je suis heureux de voir que là, on en fait vraiment une étape très, très affichée et très clairement faite. Hein. Donc, ça, c'est important. Personnellement, j'utiliserais aussi le camion flûte que l'on utilisait régulièrement dans nos manifestations à l'époque et qu'on utilise encore aujourd'hui sur le territoire de Montréal. Parce que on va être en mesure de donner vraiment l'information à tous les participants dans tous les lieux. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention, c'est une question tactique, Patrick. C'est certain que ça va dépendre énormément aussi de la dangerosité de certains manifestants qui sont présents. Est-ce qu'il y a des radicalisés avec des enfants ou ce sont plutôt des camionneurs, comme on a vu, qui viennent quitter volontairement parce qu'ils sentaient que là, la pression était trop forte? Ça va être vraiment en fonction de ce qu'on va avoir comme lecture là, en temps réel dans cette intervention-là.
Marc,
mais au niveau tactique, je m'excuse.
Non, vas-y, continue.
Tactique, là, c'est sûr qu'on va préconiser une approche avec plus de policiers pour limiter, exemple, l'utilisation des irritants chimiques. Donc, plus qu'on a de policiers, plus qu'on est en surnombre, plus qu'on a le contrôle des lieux, plus que l'utilisation minimale de la force va être possible dans une telle intervention.
Donc, si on voit dans les images d'arrestation 5 policiers sur une personne, c'est juste une façon de ne pas blesser les personnes, c'est ça?
Ah ben, c'est certain que plus qu'on est en mesure de pouvoir circonscrire ou extirper un cas problème d'une foule plus, disons, paisible ou moins revendicatrice, c'est toujours la meilleure façon d'intervenir, effectivement. Puis chaque intervention sur chacun des sites va être protégée par un nombre important de policiers. Parfois, ça peut sembler impressionnant, mais ce qu'on veut, c'est de circonscrire et de protéger l'intervention. Même si c'était de remorquer un véhicule, on a vu, on les escorte en grand nombre, justement, pour permettre les négociations ou l'intervention. Et ça, c'est une approche que je trouve très responsable.
Marc, question très pratique. Tu as travaillé dans ce qu'on appelle le SWAT. Donc, tu as été habitué à défoncer des portes. Là, il y a quand même un défi logistique d'investir la cabine d'un camion lourd comme ça si quelqu'un ne veut pas en sortir. Comment on fait ça?
C'est une excellente question, encore une fois. Il y a différentes façons. Je n'irai pas dans les détails tactiques. Mais définitivement qu'on peut arriver à nos fins. La plus grande problématique, on en a parlé tout à l'heure, c'est les enfants. Mais il y a toujours moyen de pouvoir avoir accès à un véhicule de différentes façons, d'une façon progressive. Et ça peut être parfois d'une façon statique ou d'une façon plutôt dynamique, par surprise. Mais définitivement que c'est possible de le faire.
Merci, Marc, pour tes lumières.
Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.
Salut, à la prochaine. Marc Parent, l'ancien directeur du service de police de la Ville de Montréal de 2010 à 2015. Maintenant, il est au commissionnaire du Canada. Bon, on l'a mentionné, là, la police qui étend son filet, on a créé un périmètre. Imaginez un grand rectangle dans le centre-ville. Et ben, il y a 100 points d'entrée, des checkpoints en mauvais français. Et la police garde chacun de ces points d'entrée. Si vous habitez dans le périmètre, vous pouvez sortir, revenir. Si vous y travaillez, vous pouvez sortir, revenir. Si vous n'avez pas d'affaires là, vous allez pouvoir en sortir, mais vous ne pourrez pas y retourner. Donc, je pense que c'est une façon d'empêcher les manifestants qui, généralement, là, depuis 3 semaines, vont soutenir les occupants là-bas d'entrer dans le périmètre dans les prochains jours. On sait que la fin de semaine commence demain. On va parler de tout ça avec Michel Junot-Katsuya, ex-officier du Service canadien de renseignement et de sécurité. Salut, Michel!
Bonjour, Patrick.
D'abord, peut-être un petit mot, là, justement, sur la création de ce périmètre-là. Qu'est-ce que ça te dit?
Ben, c'est une belle forme de contrôle pour l'instant tout à fait pacifiste et sans heurte. On veut, comme tu disais il y a un instant, être capable de pouvoir contrer les allées et venues. On veut définitivement laisser les gens sortir. Et là, on va commencer à appliquer tranquillement un peu une stratégie d'entonnoir. C'est ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, on va vouloir, on a énormément avisé. Le chef de police, encore une fois, dans un point de presse, il y a quelques minutes, a annoncé que cette fin de semaine ne serait pas à l'image des fins de semaine antérieures. Donc, c'est vraiment chronique d'une intervention annoncée. Et on se prépare là à vraiment serrer la vis, mais sans nécessairement complètement bloquer les points de sortie. Mm. Parce que on le sait, il y a malheureusement des intelligents qui ont gardé leurs enfants-là comme boucliers. Et ces enfants-là, on veut les protéger. Donc, si les familles veulent arriver à sortir, ou d'autres individus qui décident de ne pas vouloir être bousculés ou d'être pris dans cette intervention policière qui s'en vient, ben on va permettre cette sortie, cette évacuation des gens de manière pacifiste et de manière rapide. Et les durs de durs, ben ce seront eux qui seront confrontés à une intervention policière un peu plus tard.
Michel, on a vu à Coates, dans le sud de l'Alberta, là, il y a eu un blocus du lien autoroutier entre le Canada et les États-Unis. Il y a eu un siège. Ils ont fini par partir, mais il y a un noyau dur de racistes armés jusqu'aux dents qui a été arrêté. Des gens de l'extrême droite, on les appelle membres d'un groupe qui s'appelle les Diagolons. Est-ce que il y a des indications qu'à Ottawa, il pourrait avoir des gens radicalisés et armés comme ça?
On a définitivement identifié des gens radicalisés. On a définitivement identifié des gens qui sont de l'alt-right, la droite alternative, qui se sont présentés, voire même des Américains qui font partie de ces groupements-là. On n'a pas nécessairement, du moins, on n'a pas l'information publique qu'on a identifié des endroits où il y avait des armes ou non. Il se peut très bien, et ça, c'est l'une des préoccupations des policiers, parce que en laissant les manifestants se camper littéralement pendant 3 semaines, on leur a donné le temps de faire bien des choses. Dans un premier temps, de faire une certaine reconnaissance des lieux, d'apprendre les différents recoins qui existent au niveau de la topologie dans le coin. On leur a permis aussi de pouvoir commencer à cacher des choses ou à pouvoir s'organiser pour des interventions, des stratégies de qui pourraient avoir été développés. On le sait que malheureusement, il y avait des anciens policiers et des anciens militaires qui les ont conseillés. Donc, il y a toute une stratégie là, militaire, paramilitaire, qui a peut-être été montée et qui devra être prise en considération lors de l'intervention policière. Donc, ça sous-entend plusieurs choses. Je doute qu'on veuille faire une intervention durant la noirceur, parce que là, à ce moment-là, on perd une visibilité du terrain. Il y a des policiers qui vont être postés en hauteur pour pouvoir observer ce qui se passe. Et s'il y avait malheureusement quelqu'un qui se préparait, soit un tireur embusqué ou autre chose, il pourrait nous échapper. Mm. Une autre chose aussi. Si on a des gens qui font des actes criminels, ben, dans le noir, on n'a pas nécessairement la bonne description ou une description adéquate pour pouvoir poursuivre ces gens-là et les interpeller un peu plus tard. Donc, ça jouerait là un peu en faveur des manifestants radicaux et moins pour les policiers. Alors, dans cette perspective-là, je crois que là, il est trop tard. Je pense que les policiers vont devoir attendre à demain. Ça fait peut-être aussi partie de cette pression psychologique que l'on a voulu exercer aujourd'hui. Comme tu le sais, on a distribué des pamphlets hier. Mmh. On a maintenant, aujourd'hui, installé des barricades, des clôtures pour vraiment former un corail. Ce corail-là, il va se refermer tranquillement lorsque les policiers vont arriver avec leur escouade tactique. On a amené maintenant tous les policiers de la région au centre à Ottawa. Donc, eux autres vont passer la nuit, ils vont être en forme, vont bien manger, ils vont être au chaud. Mais demain matin, ça va peut-être être autre chose.
Michel, chaque fois que je parle de l'extrême droite, j'en ai parlé en chronique, j'en ai parlé à cette antenne, je dis, tu sais, dès le début, là, quand j'ai commencé à m'informer sur ce convoi-là, on voyait que c'était de l'extrême droite qui était l'inspiration, qui était dans l'organisation. Chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui me disent « Ah, vous exagérez ». Dans les services de renseignement, quelle est la place faite en termes de menaces à la sécurité des Canadiens qui vient de l'extrême droite?
Aujourd'hui, plus qu'hier. L'extrême droite canadienne, d'abord, elle a divers visages. Elle n'est pas la même chose. Si on parle de l'extrême droite ici au Québec, elle est plus identitaire, elle est plus nationaliste et elle est peut-être un peu isolée ou pas isolée, mais du moins placée en retrait à cause des divisions linguistiques. Mm. Dans l'Ouest canadien, ils parlent l'anglais. Ils ont des échanges avec les États-Unis, ils passent la frontière, ils vont se se polliniser l'un l'autre, si je peux dire. Ils vont collaborer. On voit des échanges d'armes aussi qui passent du sud vers le nord. Donc, les néo-nazis, les blancs suprémacistes et voire même les évangélistes radicaux, donc les fous de Dieu qui se croient dotés d'une mission divine, ben tous ces gens-là qui collaborent énormément avec les Américains ou leur pendant américain, qui sont énormément influencés par la culture du Midwest aussi, en région où on retrouve énormément de supporters de Trump, ben, ça a une très grande influence. Et pendant un bon moment, on ne les a pas nécessairement super surveillés par les services de renseignement canadiens. Est-ce que c'est peut-être parce que c'était des Blancs? Est-ce que c'est parce que c'était peut-être de moindre importance qu'on a été distrait par les extrémistes d'un autre acabit? Mais chose est certaine, aujourd'hui, ça vient de prendre une toute autre attitude. Il faut dire aussi que depuis aussi la perte du pouvoir de M. Trump, avec toute la désinformation qui s'en est suivie par la suite et de la manière qu'il a harangué la foule et ses supporters, ça a eu des effets. D'ailleurs, à cet effet, on a vu à Ottawa des Américains qui ont passé la frontière et qui sont venus supporter les camionneurs, qui sont mêlés à eux, puis on voyait des drapeaux Trump 2024 voler au milieu des drapeaux canadiens. Donc, c'est beaucoup plus préoccupant. Je pense qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et particulièrement avec la confrontation qui s'en vient, on va maintenant y donner beaucoup plus d'attention parce que il y a des gens qui vont retourner dans leur patelin. On en avait parlé ensemble au tout début il y a 3 semaines. Il y en a qui vont retourner chez eux frustrés. Mais galvanisé de cet air bon enfant, de cette camaraderie et de ce soutien qu'il croise avoir maintenant de la population ou de la base, et qui vont peut-être vouloir passer à l'acte dans leur patelin à eux. Et ça va devenir beaucoup plus difficile à enquêter pour les policiers parce que là, ça va être des actions peut-être individuelles qui vont être prises par un bonhomme qui va avoir planifié ça dans le privé de son sous-sol ou de sa chambre à coucher et qui va passer à l'action à la toute dernière minute. Et ça va être peut-être difficile d'interrompre ça.
Michel, le terme radicalisation, radicalisé, c'était réservé notamment à des jeunes qui allaient faire le djihad, par exemple, avec l'État islamique. Est-ce que tu es d'accord avec l'utilisation du terme « radicalisé » pour certaines des personnes là, qui sont dans le noyau dur à Ottawa?
Absolument, absolument. Lorsqu'on étudie le phénomène, et on l'étudie depuis très longtemps, le processus de radicalisation, le processus d'endoctrinement, le processus de recrutement et le processus aussi de diffusion de leur idéologie, de leur croyance, non seulement est exactement le même, c'est exactement le même processus. Aujourd'hui, vient s'ajouter malheureusement un média qui les aide énormément et un outil qui les aide, c'est les réseaux sociaux. Et là, il y a une abondance d'endoctrinement qui se fait de manière très, très régulière. Et comme on a observé chez les jeunes islamiques radicales ou radicaux qui se sont radicalisés par le YouTube, par ce qu'ils ont visionné sur l'Internet, ça se passe exactement de la même manière. Un autre phénomène, un autre élément qui est très essentiel à la culture de la droite, mais de n'importe quel groupe radicalisé, c'est le sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance-là...
Ils se sont trouvés une famille.
Ils se sont trouvés... C'est exactement les mots qu'il faut utiliser. Ils se sont trouvés une famille, ils se sont trouvés une cause, ils se sont trouvés une raison d'être, et ça devient un cocktail très, très puissant pour les motiver à faire bien des choses et malheureusement des choses peut-être qui sont inappropriées.
Intéressant. Merci beaucoup, Michel. Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir. À la prochaine.
Michel Junot-Katuya, ex-officier du Service canadien de renseignement et de sécurité. Salut Luc!
Salut Patrick!
Donc, quand tu regardes ce qui se passe à Ottawa, quand tu regardes comment la police a été prise de court, quel regard tu portes sur la préparation de la police face à des mouvements semblables?
Bon, on n'est pas habitué à des manifestations violentes, mais il faut dire deux choses. Donc, c'est la première chose-là. La deuxième chose, c'est que c'est une manifestation à nulle autre pareille. À cause de sa durée, mais surtout à cause de la présence des camions. C'est quasiment comme d'être une roulotte où le manifestant peut aller se réfugier puis recommencer le lendemain. Une manifestation avec des gens dans la rue...
Puis c'est une petite maison aussi.
Ben voilà, c'est Évidemment, il y a l'infiltration possible, comme tu viens d'en discuter aussi, par des éléments hyper radicaux. Puis ça, on le sait pas trop. On l'a vu à Coutts, mais on le sait pas trop pour Ottawa. Est-ce qu'il y a vraiment des membres du groupe Diagolone dans ce groupe? On le sait pas. Mais il y a aussi des faiblesses à ce groupe-là. C'est que c'est un siège. Donc, un siège, les manifestations, et il y en a toutes les semaines en Europe. Là, pendant l'automne, il y a eu des manifestations de dizaines de milliers de personnes dans toutes les grandes villes de la Hollande. Il y en a eu en Belgique. On sait aussi qu'il y en a eu en France précédemment, en Allemagne. En France, il y a eu les Gilets jaunes avant, il y a 2 ans. Et puis, il y a des groupes spécialisés de la police, comme les CRS, c'est les compagnies républicaines de sécurité, ou les PSU en Angleterre, qui sont des groupes organisés, spécialisés pour faire face à ça, sur une base quotidienne. Ils sont là, c'est un groupe, ils se déplacent, 13 000 policiers français dans les CRS, plus 13 000 dans la gendarmerie mobile, ça leur fait 26 000, une force de frappe de 26 000 policiers qui peuvent débarquer et faire régner l'ordre. On n'a pas ça au Canada. On a vu avec la police d'Ottawa, le maire demandait 1800 personnes, on a fini par lui donner, j'imagine, on va le voir dans les prochains jours, en ramenant des éléments de la Sûreté du Québec, peut-être de la police de Toronto, certainement de l'OPP, mais la police, il n'y a pas un groupe de police, et chez les CRS, ils ont un entraînement, une formation à toutes les 5 semaines. Donc, s'il y a des nouvelles techniques de la part des manifestants, il y a des nouvelles semaines. À toutes les 5 semaines, il y a une mise en forme. Ils ont leur propre véhicule. Ils ont des véhicules avec des espèces de grilles qui se déploient à l'avant du véhicule qui créent un mur automatique. Là, presque automatiquement, tu peux bloquer une rue. Ils ont des camions arroseurs avec une puissance de jet. Tu peux pas rester sur tes pieds. Ils ont évidemment tout un assortiment de grenades assourdissantes, grenades à souffle, etc. On n'a pas ça en Amérique du Nord. On n'a pas ça. On n'est pas habitué aux manifestations violentes. Mais la manifestation d'Ottawa, c'est une manifestation, c'est un siège. Donc, ils se sont enfermés dans un périmètre. Et là, on va s'assurer qu'ils restent enfermés dans le périmètre. Or, les manifestations qui font du tort, énormément de tort, c'est lorsque les manifestants se dispersent dans la ville et mettent le feu à des voitures de police, à des stations de police, cassent les vitrines, cassent le mobilier urbain, font ils mettent des accumulations de matériaux dans les rues pour bloquer des rues. Là, on n'aura pas ça parce qu'ils ont voulu faire un siège. Alors, à mon avis, ça sera peut-être pas si difficile que ça, outre le fait que quelqu'un pourrait tirer à la mitraillette dans les rues, là, mais outre ce fait-là, outre le fait qu'il pourrait y avoir des personnes très, très, très radicalisées, le contrôle d'une manifestation dans un périmètre avec une clôture, ça risque de pas être si compliqué que ça.
Écoute, c'est une analyse que j'avais pas vu venir, Luc, parce que tous ceux que j'entends dans les médias, les experts, ceux que j'ai interviewés, disent que logistiquement, ça risque d'être pas mal difficile.
Oui, oui, de déplacer les véhicules. Mais c'est
non,
pas...
non, de sortir les gens des véhicules.
Ah, oui. Bon, il y a ça. Il y a ça, il y a la présence des enfants, puis il y a l'infiltration. Là, c'est 3 affaires qu'on ne sait pas. Et comment ça va se jouer, on ne le sait pas. Mais tu sais, casser une vitre, as-tu vu les vidéos sur la façon dont les policiers cassent les vitres des vitres de latérales, pas la vitre devant.
Pas le pare-brise, là.
Pas okay, le pare-brise, mais les vitres latérales. As-tu vu comment ils font ça?
Non, comment? Ah,
va voir sur YouTube. Ça prend 1/2 seconde. Là. Il appuie sur un point, clac, elle pète immédiatement. Le métier de policier, là, ça existe là quand même. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui résistent à leur arrestation.
Non,
là.
C'est vrai.
Et oui, ils sont nombreux, mais ils sont juste 500, ils ne sont pas 35 000, ils sont 500. Alors, moi, je me dis, il faut prendre la chose au sérieux, d'autant plus qu'on a parlé des facteurs d'aggravation très, 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 très graves qui pourraient se produire, les enfants, l'infiltration, etc. Mais pour le gros du groupe, là, il roule des mécaniques, mais des policiers sont capables de procéder à l'arrestation d'une personne qui s'embarque dans son véhicule.
Écoute, Luc, je sais pas comment ils vont procéder, là, mais j'ai été dans des manifs, là, par exemple Sommet des Amériques, Printemps érable. Tu sais, quand ils sont en rang d'oignons, là, un à côté de l'autre, dans leur soute de Robocop, là, puis qu'ils commencent à avancer en frappant sur leur bouclier, c'est très intimidant, juste le son et la représentation visuelle.
Absolument, absolument. Autre chose aussi, as-tu déjà respiré avec des gaz lacrymogènes.
Oui. Puis c'est pas le fun.
Et que c'est, tu es immobilisé.
Ton réflexe, c'est que tu t'en vas dans la douche, puis ça fait encore plus mal dans la douche.
Oui, c'est ça. S'il y a une douche pas loin de toi. Ben eux, ils ont des saunas, fait que peut-être. Mais toujours est-il que c'est la police a des moyens pour arrêter un citoyen ordinaire qui résiste à son arrestation, même s'ils sont 500. Surtout que si la police, ils sont 2000. Mais ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est ce dont tu parlais avec ton intervenant précédent. Est-ce qu'il y a un groupe radicalisé là-dedans qui va se mettre à tirer? Soit en l'air, soit sur le mobile, soit dans les fenêtres, peut-être même sur les personnes. Ça me surprendrait énormément, mais ça changerait tout.
Merci, Luc.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Bon, à Ottawa, les nombreux policiers sont en train de jeter leur filet, si on peut dire. Là, on sent que c'est la fin du party. C'est-à-dire qu'il y a désormais un périmètre, un grand rectangle dans le centre-ville d'Ottawa avec 100 points de contrôle gardés par des policiers. Donc, si vous n'avez pas d'affaires dans le périmètre et que vous voulez y accéder, vous ne pourrez pas y accéder. Donc, c'est un message qui est envoyé là aux gens qui pensaient peut-être aller appuyer les camionneurs, les manifestants en fin de semaine. Ça va être extrêmement difficile. Donc, on sent que l'opération pour déloger le noyau dur commence à se mettre en branle. Et parallèlement, il y a tout le débat politique, parce que le gouvernement Trudeau a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, mais a 7 jours maintenant pour le faire adopter, pour faire adopter cette loi-là à la Chambre des communes. Pendant ce temps-là, le gouvernement peut quand même donner les pouvoirs extraordinaires à la police. On va aller décortiquer ce qui se passe en termes de débats enflammés à la Chambre des communes avec Hélène Buzetti. Elle est analyste politique pour les coops de l'information à Ottawa. Salut Hélène!
Bonjour Patrick.
Donc, le gouvernement Trudeau là a dû justifier les motifs pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence, mais disons que le gouvernement est talonné très très sévèrement par l'opposition.
Ouais, ben c'est un marathon parlementaire qui a commencé ce matin à 10h. Hier soir tard, on nous avait donné l'avis là que le débat commencerait tel que prévu à cette loi spéciale. Et là donc ça commence, ils ont la possibilité de débattre jusqu'à minuit ce soir et là demain, ils recommencent aux petites heures, là 7h le matin, le parlement n'est pas ouvert d'habitude à cette heure-là, jusqu'à minuit encore et surtout très exceptionnel, en fin de semaine, samedi et dimanche, on ferait aussi du 7h à minuit les deux jours et on continuerait lundi alors que le Parlement n'est pas supposé siéger. On était supposé d'être en congé la semaine prochaine. Ça siégerait encore pour un vote potentiellement aux alentours de 7h30, 20h lundi soir, si le débat ne cesse pas avant. Parce que dans ces affaires-là, quand à un moment donné, il n'y a plus personne qui manifeste le désir de se prononcer, on appelle ça que le débat s'écroule, c'est ça le terme parlementaire, et là, à ce moment-là, on passe au vote, mais le vote aurait quand même lieu lundi, donc potentiellement après que tout soit nettoyé à Ottawa.
Pourquoi c'est si long?
Ben parce que le gouvernement est bien conscient que c'est une mesure exceptionnelle. Hein? Cette loi-là n'a jamais encore été invoquée depuis son existence en 1988. Beaucoup de critiques envers, c'est une suspension des droits démocratiques, etc., même si on exagère beaucoup la portée de cette loi-là, mais on peut y revenir. Donc, bref, le gouvernement étant conscient du caractère exceptionnel de la chose, il veut être certain qu'il donne la possibilité à tout le monde de se prononcer. Il ne veut pas se faire dire après coup « Ah, moi, j'avais des arguments importants et puis personne ne m'a entendu. » Bon, ceci dit, qui va écouter un député d'arrière-ban de la Saskatchewan samedi soir à 22h30? Ça, je le sais pas, mais au moins, pour la postérité, ça sera consigné dans ce qu'on appelle le ensor, la transcription de la Chambre des communes.
Hélène, il y a... on sait que le Parti libéral, évidemment, va appuyer cette loi-là. Il est minoritaire. Là, ça va lui prendre l'appui d'un parti. Au moins, les conservateurs ont dit non. Le Bloc a dit non d'ores et déjà. Le NPD a, disons, droit de vie ou de mort sur ce projet de loi-là. Qu'est-ce qu'on sait des intentions des néo-démocrates?
Donc, le NPD dit qu'il va appuyer. En fait, c'est pas un projet de loi. C'est une loi qu'on a invoquée. Oui. Elle est déjà en vigueur depuis lundi soir, en fait. Ce vote-là, évidemment, s'il ne passait pas, ben là, ça ferait cesser immédiatement l'application de la loi. Mais tant que le vote n'a pas lieu lundi, ben la loi, elle est utilisée. Donc, en fin de semaine, on peut faire ce qu'on veut. La police peut faire ce qu'elle veut faire sans que ce vote-là n'ait eu lieu. Donc, techniquement, le gouvernement pourrait, tu sais, ne pas obtenir les appuis lundi soir et la loi aurait quand même été utilisée. Donc, le NPD a dit qu'il l'appuie avec circonspection. D'ici jamais on constate que d'ici le vote à lundi, on n'en a plus besoin de ces pouvoirs-là. Admettons là, que tout serait nettoyé à Ottawa, ce dont beaucoup doutent là, parce que ça va prendre quand même pas mal de temps à tout libérer la voie. Mais enfin, si tout devait être réglé d'ici lundi soir, le NPD se garde la petite option de dire non, finalement, je n'appuie pas. Mais ça me surprendrait beaucoup. Je pense qu'ils vont l'appuyer. Mais par contre, ils pourraient ne plus être un partenaire de danse si jamais le gouvernement décidait de renouveler l'application de cette loi là, qui est pour 30 jours.
Le Bloc québécois semble faire des parallèles entre la loi sur les mesures d'urgence et la loi sur les mesures de guerre qui avait été invoquée par le père du premier ministre actuel en 1970. Est-ce que c'est exagéré?
Personnellement, moi, je pense que c'est grossièrement exagéré. Je parlais même à une professeure de droit, là, Martine Valois, qui disait, vous savez, la seule égalité qu'il y a entre la loi sur les mesures d'urgence et la loi sur les mesures de guerre, c'est le mot « mesure ». Ça vous donne une idée. La loi sur les mesures de guerre, bon, c'était avant que la Charte des droits et libertés n'existe au Canada, mais essentiellement, ça donnait le droit au gouvernement de faire à peu près n'importe quoi, des arrestations arbitraires, on n'avait pas de recours, pas de droit, on vous foutait en prison simplement parce que vous étiez peut-être sur la liste des membres du Parti québécois. On peut pas faire ça ici, là. C'est pas du tout de ça dont on parle. C'est vraiment très circonscrit. En fait, c'est qu'en l'invoquant, le gouvernement gagne le droit d'adopter des mesures spéciales. Et dans ce cas-ci, les mesures spéciales en question qu'Ottawa a adaptées, elles sont de deux ordres. D'abord, donner à la police la possibilité de faire, comme vous l'avez dit, le faire ce périmètre à Ottawa, puis dire c'est désormais une zone interdite, vous pouvez pas vous y rendre. Les gens qui sont là à manifester avec des personnes mineures vont obtenir des amendes, par exemple. Et l'autre aspect que Ottawa a donné, c'est au niveau financier. Donc, désormais, on peut geler les comptes bancaires et les contrats d'assurance des individus, mais aussi des compagnies de camionnage qui sont représentées dans cette manifestation-là. Alors, on va frapper là où ça fait mal. Demain matin, vous prenez votre carte de guichet, vous pouvez plus aller chez Tim Hortons, vous achetez un café, tout est gelé. De nos jours, quand vos avoirs bancaires sont gelés, ça vous complique drôlement la vie, à part si vous aviez un petit 1 000 $ caché sous votre matelas. Et ne plus avoir d'assurance, ben quand on est un camionneur, ça veut dire ne plus avoir de gagne-pain parce que vous ne pouvez plus rouler sur les routes, là. Alors, ce sont des pouvoirs très ciblés, mais qui peuvent faire très mal.
Hélène, il y a quelqu'un qui me pose une question dans la messagerie. Si la loi sur les mesures d'urgence n'est pas accepté par la Chambre des communes. Est-ce que le gouvernement peut tomber? Parce qu'on sait que le gouvernement Trudeau est minoritaire.
On nous dit que non, que ce n'est pas une question de confiance, mais effectivement que ça pourrait amener les gens à se poser cette question-là, surtout qu'il aura agi sur cette loi. Donc, en quelque sorte, il aura agi sur une loi que le Parlement ne lui permettait pas d'avoir. Alors, c'est pour ça que je doute énormément que le NPD, même si la situation devait être nettoyée, entre guillemets, en fin de semaine, que le NPD ne vote pas avec le gouvernement pour ne pas créer ce genre de situation de débat autour de la viabilité du gouvernement. Je pense que le gouvernement, le NPD, va s'éviter ça en votant pour, mais c'est une question à laquelle la réponse n'est pas si claire.
Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Hélène, pour ce compte-rendu.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Salut, à la prochaine. Hélène Buzetti, analyste politique pour les Coop de l'information à Ottawa. Les Coop de l'information, c'est quoi? Ben, c'est un groupe de journaux dont fait partie notamment le journal Le Soleil de Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il y aura une élection présidentielle en France les 10 et 24 avril. Vous le savez, ça se déroule à deux tours. Premier tour, ben, il y a plein de candidats, généralement. Et deuxième tour, on y va avec les deux candidats qui ont récolté le plus de voix. Et le candidat qui retient beaucoup, beaucoup d'attention médiatique et d'attention numérique, ben, c'est le candidat Éric Zemmour. Il bouleverse le paysage politique. C'est un habile communicateur, Éric Zemmour. Il est en quelque sorte né à la télévision. C'est maintenant qu'il est en politique. Il veut restaurer la gloire passée de la France. Il trouve aussi que les immigrants sont un problème en France. Bref, il rappelle à plusieurs égards un certain Donald Trump, hein, beaucoup plus cultivé, diront certains. Et là, coup d'éclat en France, on apprend que la campagne de M. Zemmour a été infiltrée par un journaliste pendant 4 mois. Ce journaliste s'appelle Vincent Bresson. Son enquête fait l'objet d'un livre à paraître au cœur du Z. Il est au bout du fil. Monsieur Bresson, bonjour.
Bonjour.
D'abord, résumez-nous le parcours d'Éric Zemmour là, pour les gens du Québec qui ne seraient pas familiers avec lui.
Éric Zemmour, à la base, il n'était pas politicien. C'est un journaliste et c'est un visage très connu pour les Français, puisqu'on l'a vu sur France 2, on l'a vu sur des chaînes comme Paris Première. Donc, avant de se lancer dans la politique, c'est quelqu'un qui était déjà un visage connu pour les Français.
En quoi il détonne dans le paysage politique français?
Sa candidature est particulièrement originale, parce que déjà, d'une part, il n'y a pas. C'est la première fois qu'il y a un journaliste qui se présente, et aussi la vitesse avec laquelle il est arrivé à des taux de sondage très élevés. Il est passé de 7 à 15% en septembre 2021, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de m'y intéresser en me demandant un peu qu'est-ce qui se passait en l'œil du cyclone.
Mais justement, pourquoi avoir décidé d'infiltrer la campagne d'Éric Zemmour plutôt que une autre des campagnes d'autres candidats à la présidentielle?
Parce qu'Éric Zemmour, c'est pas un candidat comme les autres à cette élection présidentielle. C'est le seul candidat qui a été condamné deux fois pour provocation à haine raciale. Donc, j'ai eu l'idée d'infiltrer son mouvement pour tâcher de voir ce qu'il y avait derrière.
Donc, évidemment, les gens ne savaient pas que vous étiez journaliste. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 mois dans la campagne du candidat?
J'ai fait de nombreuses choses. On m'a très tôt confié les clés du local de campagne. Donc j'étais tout seul la nuit, souvent, et des fois le jour, à surveiller le QG de campagne, à aussi voir les gens qui y passaient. Et ça m'a permis de... C'était quelque chose que j'utilisais un peu comme une carte de visite. Ça m'a permis d'accéder à d'autres missions, comme notamment la cellule Wikizedia, qui est une cellule fantôme qui cherche à zémouriser au maximum les contenus sur Wikipédia.
Pourquoi est-ce que la campagne de M. Zemmour trouve si important d'être très présent sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia, trouve si important disons, dorer la pilule quant au candidat Zemmour?
En France, en 2021, la page d'Éric Zemmour, c'est la plus vue de tout Wikipédia. Juste derrière, il y a la page d'Elisabeth II. Et il est fort probable qu'en 2022, ce soit d'autant plus vu que c'est les élections présidentielles. Donc c'est très important d'y être dessus, à tel point que cette cellule Wikipédia, qui est censée être une cellule fantôme et donc pas publique, est patronnée directement par un des bras droits d'Éric Zemmour, qui s'appelle Samuel Lafont et qui est le responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour.
OK. Si vous permettez, là, pour bien situer les gens qui nous écoutent, là, on va écouter un extrait d'un discours d'Éric Zemmour.
Dès les premières semaines de mon mandat, l'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique. Dès la rentrée prochaine, nous referons de l'école l'instrument de l'assimilation à la française et nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT.
Donc, écoutez, on pourrait dire que Monsieur Zemmour n'a pas beaucoup d'amour dans son cœur pour l'immigration et on pourrait dire que c'est un candidat aussi anti-woke. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui plaît aux Français présentement?
Moi, en tout cas, les militants que j'ai croisés au sein de Génération Z, qui est le pôle jeunesse de la campagne d'Éric Zemmour et qui est la chose que j'ai infiltrée, c'est un discours qui plaît parce que les gens font, les militants font beaucoup de blagues, notamment pour se moquer des woke et pensent justement que c'est un totalitarisme. Ils vont jusqu'à utiliser ce mot. Donc ils sont vraiment contre effectivement l'idée du wokisme et même l'idée de l'immigration.
Et vous rapportez dans votre livre, en tout cas si je me fie au rapport médiatique que j'ai pu lire, là, vous rapportez de nombreux dérapages racistes dans l'équipe de M. Zemmour. Donnez quelques exemples de ce que vous avez entendu.
Tout au long de mon administration, effectivement, j'en ai entendu des propos racistes. Ils sont tenus à la fois par des gens qui sont des simples militants. Par exemple, lors du premier collage d'affiches que j'ai fait, il y a eu un militant qui a utilisé le mot « nègre » pour parler des Noirs, ce qui n'a pas fait réagir les gens autour de moi, et ce qui a été très, du coup très, très surprenant, parce qu'on n'avait jamais utilisé ce terme devant moi. Et il y a aussi des proches d'Éric Zemmour, comme Gilbert Payet, qui est le mandataire financier de sa campagne, et Sophie Calvel, sa secrétaire personnelle, qui ont utilisé le mot Mamadou pour désigner les personnes noires qui nous conduisaient dans un parking lors d'un meeting le 5 décembre.
Est-ce que vous avez été surpris d'entendre ça? Parce que, bon, quand on voit, on a écouté un extrait d'un discours de M. Zemmour, il envoie des messages très durs, souvent, d'aucuns pourraient dire, intolérants face à l'immigration. Est-ce que c'est une surprise que, en privé, ses collaborateurs ont des commentaires qui sont aussi intolérants?
Ce qui est sûr, c'est qu'on savait déjà qu'il y a des groupuscules qui soutiennent Éric Zemmour, qui sont racistes, qui ont des comportements racistes. Il y a un groupuscule qui s'appelle la famille Gallican, qui, par exemple, en octobre-novembre, avait tiré sur des caricatures antisémites, racistes, dans une forêt. Et ce qu'on savait un peu moins, et ce que j'espère montrer avec cette enquête, c'est qu'une partie qui est censée être clean, c'est-à-dire les militants et les proches d'Éric Zemmour, tiennent ses propos, et surtout sont que ça semble choquer les gens autour d'eux.
Vous avez aussi documenté, M. Bresson, là, dans votre enquête journalistique de 4 mois en infiltré dans la campagne de M. Zemmour, vous avez documenté la stratégie numérique de l'équipe du candidat et vous dites que ses créateurs, que ses collaborateurs veulent créer l'impression sur Internet que M. Zemmour est porté par une vague de fond qui est artificielle au fond. Expliquez comment Facebook est utilisé pour ça notamment.
Oui, totalement. Facebook est un très bon exemple pour ça. Un jour, j'écoute une conférence donnée par Samuel Lafond, donc le responsable numérique de la campagne d'Éric Zemmour. Cette conférence, il l'a fait sur Discord. C'est une messagerie qui est très privée des geeks et il l'a fait devant des militants de Génération Z, donc censé être privé. Et il explique que la fin de la campagne, selon lui, elle va se jouer sur deux choses. Elle va se jouer à la fois sur le porte-à-porte et elle va se jouer sur Facebook. Et après ça, je découvre la stratégie qu'il met en place. Cette stratégie, c'est quoi? C'est d'aller infiltrer le maximum de groupes Facebook, mais des groupes Facebook qui n'ont rien à voir avec la campagne, c'est-à-dire des groupes Facebook de pêcheurs, de fans de Johnny Hallyday, de fans de clubs de foot, et d'aller poster du contenu en faveur d'Éric Zemmour sur ces groupes-là, et de le faire, évidemment, sans dire qu'on est militant. Et ça, c'est problématique.
Pourquoi c'est problématique?
Parce que c'est amoral, et surtout, ça pose question au niveau de la loi. Je me pose la question dans le livre, si tout ceci est légal. J'ai discuté avec des avocats spécialisés et force est de constater que le droit français est assez lâche en la matière, donc j'ai pas eu totalement de réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que le droit ne semble pas adapté à réagir en temps réel, surtout quand il s'agit d'Internet et des réseaux sociaux.
Vincent Bresson, est-ce que votre livre est menacé d'interdit de publication? On peut imaginer que la campagne de M. Zemmour en France va peut-être utiliser des moyens judiciaires pour empêcher sa publication?
C'est possible. Pour l'instant, on n'a rien qui va dans ce sens, mais c'est pas exclu.
Merci. C'est une intéressante enquête. J'ai lu les articles et j'ai bien hâte de lire le livre. Merci d'avoir été avec nous, M. Bresson.
Merci à vous.
Au revoir. Vincent Bresson, journaliste indépendant en France, a eu une idée, disons, un peu en dehors de la boîte, comme on peut dire. Il s'est dit, quoi de mieux pour comprendre comment fonctionne la campagne du candidat atypique Éric Zemmour que de se porter bénévole, volontaire dans sa campagne. Rapidement, il a accédé, disons, à l'équipe de direction et son livre va être bientôt publié. Ça raconte 4 mois d'infiltration. Donc, écoutez, c'est très intéressant. Ça fait polémique en France. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette méthode journalistique d'infiltrer comme ça. Le livre s'intitule « Au cœur du Z » et ça devrait sortir très bientôt.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.